Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pour saluer Melville, œuvre écrite en prison pour se distraire ? Non, pour exprimer son bonheur. Le 2 avril 1965, sur France Culture, Jean Giono était l'invité de Gilbert Gann.
Et voici la minute de vérité de Gilbert Gann. Aujourd'hui, entretien avec Jean Giono.
Jean Giono, vous avez eu 70 ans le 30 mars dernier. On peut dire que cet anniversaire n'est pas passé inaperçu, quoique vous n'ayez pas bougé de Manosque, ni même de cette maison où nous sommes en ce moment, et où vous habitez depuis 35 ans, c'est-à-dire où vous avez écrit la majeure partie de votre œuvre. Et c'est justement de cette œuvre que je voudrais vous parler. En effet, je disais tout à l'heure que votre anniversaire n'était pas passé inaperçu, et parmi toutes les preuves qui abondent, je voudrais citer par exemple le livre de Pierre de Boisdeffre qu'il vous a consacré dans la Bibliothèque idéale. Or, Pierre de Boisdeffre note très justement qu'on distingue plusieurs périodes dans votre œuvre. Il dit que vous avez changé, et dans le questionnaire qui figure dans ce livre, vous semblez dire le contraire.
Oui, et je vais de nouveau vous dire le contraire maintenant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux opinions. Celui qui est extérieur à une œuvre ne voit que des moments de cette œuvre, ce sont les moments qui sont publiés par l'éditeur. C'est-à-dire qu'il voit par exemple le moment dit « Que ma joie demeure » pour moi, et puis il voit ensuite le moment « Le hussard sur le toit », et entre les deux livres, il y a tellement de différences qu'il peut imaginer qu'il y a rupture d'écriture, rupture d'imagination entre les deux. Mais en réalité, pour l'écrivain, en tout cas pour moi, ça ne s'est pas passé de cette façon. Le travail en a été ininterrompu entre les deux livres. Et entre les deux livres, il y a au moins une dizaine ou une quinzaine de textes qui n'ont pas été publiés, qui restent dans les variantes de mes livres, et qui sont, elles, les étapes successives qui m'ont mené d'une façon ininterrompue comme un choix de mère au hussard sur le toit.
Il semble tout de même difficile de croire que pendant que vous écriviez d'une façon lyrique des livres comme « Que ma joie demeure », vous écriviez aussi d'une façon stendhalienne des livres comme « Le hussard sur le toit ».
Oui, alors c'est peut-être difficile à croire, mais c'est cependant la réalité. Et je pourrais vous le prouver, vous en donner les preuves si c'était nécessaire, car chacun de ces livres est accompagné d'un carnet dans lequel se trouve le travail du style. Or, vous verriez dans le carnet de « Que ma joie demeure » que dans la même page, il y a le travail de l'écriture du hussard sur le toit.
Donc, Pierre de Boisdeffre distingue dans votre carrière la part du poète et ensuite la part du prosateur. Je pense que là, au moins, vous êtes d'accord.
Eh bien, mais je ne sais pas si un poète s'exprime en prose. Je ne vois pas pourquoi la différence qu'il y a entre poète et prosateur, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il veut parler du poète en vers. Évidemment, je n'ai jamais écrit de vers, sinon un grand poème qui est inédit sur la chute des anges et que personne n'a encore lu. Mais un poète, ça peut être un poète en prose.
Enfin, il ne fait pas de doute que vu de l'extérieur, pour un lecteur ordinaire, un lecteur qui n'est pas au courant de votre travail intérieur, il est évident que vous avez changé. Et je veux faire allusion à ce que Pierre de Boisdeffre appelle votre prédication anti-moderne. Eh bien, il est certain que pendant un moment donné, vous lanciez au monde une sorte de message et même que vous aviez ici beaucoup de disciples qui venaient vous écouter au Contadour.
Non, on ne peut pas parler de disciples dans ce cas-là, je vais vous expliquer pourquoi. Et nous allons préciser le sens du mot message. Il y a une période qui se place en 1933-34. Et à ce moment-là, la mode était au message. Il suffisait que vous rouliez une cigarette pour qu'on considère la façon de la rouler comme un message. Tout le monde donnait des messages. M. Guéhenno donnait des messages, M. Chanson donnait des messages, M. Gide donnait des messages, tout le monde donnait des messages. Je ne vois pas pourquoi, moi, à ce moment-là, je n'aurais pas suivi les plus grands, je n'aurais pas donné moi aussi mon message. Mais en réalité, tout le monde se contentait d'écrire ce qu'on appelle maintenant des petits papiers, des petits articles, des petits systèmes, et tout ça ne dépassait pas vraiment l'article de première page d'un journal. Alors le Contadour, savez-vous ce que c'était que le Contadour ? Le Contadour, c'était ceci. À un certain moment donné, beaucoup de jeunes gens étaient venus me voir. Tout simplement me voir ici à Manosque, dans l'endroit où nous sommes maintenant. Et en réalité, c'était l'été Et je les avais reçus dans la cour. Et nous avons parlé pendant assez longtemps. Et puis, à un moment donné, ma femme m'a appelé et m'a dit, mais écoute, Jean, est-ce que ces jeunes gens et ces jeunes filles vont rester longtemps ? Je lui ai dit, ben non, écoute, tu as raison, il faut quand même que je me décide à les faire partir. Alors, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, plutôt que de rester ici, où je ne peux pas vous garder plus longtemps, puisque vous avez vos sacs et puisque moi, ça me plairait beaucoup de faire une promenade avec vous, nous allons partir faire une promenade dans la montagne de Lure.
Oui.
Et nous sommes partis faire une promenade dans la montagne de Lure. Dans la montagne de Lure, nous sommes arrivés dans un endroit du Contadour que je connaissais bien, où nous avons campé un jour. Et là, nous avons été tellement à notre aise que finalement, l'idée nous a pris d'acheter une maison qui se trouvait là. Moi, je disposais à ce moment-là de 1500 francs. La maison n'en coûtait que 1500. Je l'ai achetée et on est revenu passer chaque fois des vacances. Ça n'a jamais été que des gens qui venaient passer des vacances, entendons-nous bien. Ça n'avait aucune commune mesure avec ce que fait, par exemple, Lanza del Vasto ou ce que font des quantités de gens
oui,
maintenant.
J'y pensais.
Non, c'était tout à fait différent.
Admettons que ça a débuté comme ça.
Ça a toujours été comme ça, toujours.
Bon, oui, mais enfin, jamais. Il y avait vos livres.
Quels sont les livres de cette époque ?
Par exemple, Que ma joie demeure, par exemple, puis, Les vraies richesses.
Que ma joie demeure, Les vraies richesses, oui. Et puis quoi ? Ça n'a pas raison pour présenter des disciples.
Donc, pour reprendre un mot qui n'est pas de moi, dans ces livres-là, vous prêchiez tout de même quelque chose. Vous prêchiez l'amour de la vie, vous prêchiez la joie dionysiaque, je dirais païenne.
Oui.
Et puis enfin, Jean Giono, il y avait aussi tout l'aspect pacifiste de votre... Vous écriviez refus d'obéissance, vous signiez des manifestes, vous envoyiez des télégrammes à Daladier et à Chamberlain.
Bien entendu, mais ça se trouvait implicitement exprimé dans Le Grand Troupeau et dans les livres que j'avais écrits avant. Vous savez, moi j'ai fait la guerre de 14 et ça ne m'a pas marqué du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas fait partie ensuite des anciens combattants, je n'ai pas demandé la pension des anciens combattants, je n'ai pas fait partie des anciens du 140 ou des anciens du 52 ou de la 27e division. Je n'ai jamais voulu ce truc-là. La guerre était finie. Elle était finie. Mais elle était finie avec cette réserve que je me disais en moi-même.
Reprenons les deux aspects de votre œuvre à ce moment-là. Il y avait donc cette prédication anti-moderne, je vous rappelle que le mot n'est pas de moi,
oui.
Et il y avait ensuite cet amour du pacifisme qui vous a fait désavouer toutes les guerres. Et on peut dire aussi que l'évolution du monde moderne vous a désavoué presque totalement, car, enfin, c'est la machine qui a triomphé d'abord.
Attention, mon cher ami, attention. Vous parlez actuellement du premier balbutiement de l'époque des machines. Nous n'en sommes pas encore au moment où les machines vous grignoteront les oreilles. Ça commencera. Vous ne pouvez pas dire à ce moment-là que le monde m'a désavoué, que la science m'a désavoué. Elle est en train de continuer son petit truc. Moi, je suis en train de continuer à dire mes mêmes choses. Nous verrons bien où ça aboutira.
Pourquoi n'y aurait-il pas un équilibre qui se produirait ?
Ah, mais nous verrons bien. Vous, vous dites qu'il y a un équilibre, moi je dis qu'il n'y en a pas. Vous n'avez pas plus de raison que moi de dire que c'est vous qui avez raison. Nous verrons bien.
Donc vous ne reniez rien de
ce
que vous écriviez à
cette époque. Mais au contraire, je vais vous dire encore plus. Actuellement, ce qui bouleverse l'intérêt un peu enfantin d'ailleurs, de presque tout le monde, ces espèces de gymnastiques d'astronautes qui se baladent à 495 km au-dessus de la Terre en faisant leur petit système à la Jules Verne et en s'éloignant de leur vaisseau spatial. Eh bien, tout ça, moi, je le considère comme du cirque, et du cirque politique.
Mais vous auriez pu dire la même chose au début de l'aviation.
Mais pas du tout. L'aviation, pour moi, ça n'est pas encore... On ne vole pas. On est projeté d'un point à un autre. On ne vole pas. Ce qui vole, c'est une mouche à l'intérieur d'un verre. Ça, c'est du vol. Ça s'appelle voler. Ça ne touche rien, ça se pose où ça veut, ça part quand ça veut, ça recommence, ça c'est du vol. Le reste, la caravelle ou le jet, c'est un truc qu'on envoie comme un projectile d'un endroit à l'autre et qui quelquefois se casse la gueule. Ça n'a pas d'importance. Pour moi,
il y a quand même des hélicoptères qui se posent où ils veulent.
Oui, mais enfin, les hélicoptères, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, de toute façon, ça n'est pas un miracle extraordinaire.
Donc, les cosmonautes, vous n'y croyez pas ?
Ah, c'est pas que je n'y crois pas, je les ai vus. J'y crois. Mais je considère que tout ça, c'est tout petit. C'est minuscule. Et ce que je vois, au contraire d'énormes et de très grands, c'est l'orgueil humain. L'homme est d'un orgueil incommensurable et ne s'arrête nulle part, cet orgueil.
Alors là aussi, il me semble que vous avez changé. Car vos premiers livres témoignaient d'une certaine confiance en l'homme. C'est indéniable. Et maintenant...
J'aimerais bien que vous me montriez ça, moi.
Ben, ma foi, vos livres débordaient d'humanité. Je pense à Un de Beaumugne, à La Femme du Boulanger.
Oh, ben, les autres sont pareils, quoi. La femme Un de Beaumugne, c'est une fille trompée qui il y a un type qui la prend en pitié, c'est, je vois pas. Ça, c'est de l'humanité puérile et honnête, vous comprenez ça.
Oui, mais je parle pas de la situation, je parle aussi du texte lui-même, enfin, de la peinture de vos personnages.
Mais c'était pareil.
Or, maintenant, il semble que vous ayez méfiance envers l'homme.
Non, je n'ai pas de méfiance envers l'homme, c'est-à-dire que... J'ai fait depuis, disons, une trentaine d'années, une certaine série d'expériences, n'est-ce pas ? Imaginez que, en tant que romancier, j'ai installé l'homme sur ma table, je l'ai examiné, je me suis dit, est-il bon ou est-il méchant ? Hein ? Puis je suis arrivé à la conclusion que non, qu'il n'était ni bon ni méchant, que c'était tout à fait un pauvre bougre, un animal comme un autre, un transformateur de matière comme l'est un bouseux, ou comme l'est une fourmi, ou comme l'est un papillon, ou comme l'est une abeille. Et il a à son actif, pour ses éléments de transformation, certains outils que la nature, d'ailleurs, lui pousse subrepticement entre les mains et qu'il imagine avoir découvert pour transformer cette matière un peu plus rapidement que ce qu'il la faisait avec les moyens du bord. La nature lui a poussé entre les mains des certaines découvertes. Avec ces certaines découvertes, il transforme encore beaucoup plus rapidement.
Mais la nature, pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu ?
Non, disons, c'est un mot facile avec lequel je me sers pour dire l'extérieur, ce qui n'est pas moi.
Parce que naturellement, vous ne croyez pas à l'âme.
Ah non, non, non.
Oui.
Pierre
de Boisdeffre dit que 20 siècles de christianisme ont glissé sur vous comme sur les plumes d'un canard sauvage.
Oui, et alors, je vais vous dire une constatation terrible, dans laquelle vous allez être obligé de me suivre, c'est que non seulement ces 20 siècles de christianisme ont passé sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard sauvage, mais également sur vous et également sur tout le monde. Car l'homme, si vous le laissez libre, enlevez les lois, enlevez les gendarmes, vous avez affaire à une espèce de monstre apocalyptique dont vous n'avez pas idée.
Mais justement, vous me parlez de gendarmes, et je voudrais en revenir à certaines de vos expériences. Mmh. Alors, tout d'abord, il y a eu la guerre qui a ruiné nombre de vos espoirs.
Non. À la guerre, j'étais un petit personnage de 19 ans qui courtisait les petites filles à l'époque des lilas, qui allait se promener pour barboter des cerises, et qui, brusquement, m'a donné un fusil, un casque, une boîte à masques...
Je ne parlais pas de celle-là, je parlais de celle de 39.
À l'autre, ben l'autre l'a ruiné quoi ? Elle ne m'a rien ruiné du tout, au contraire, elle m'a fait faire des expériences admirables.
Mais tout de même, les gendarmes sont venus vous chercher.
Mais oui, mais ça, j'allais vous en parler. Elle m'a fait faire deux expériences admirables les deux fois où je suis allé en prison. Ces deux fois-là, ça a été épatant. Magnifique. Les gendarmes, ça n'est pas grave. Oui. Quand vous n'avez pas vous-même votre propre gendarme intérieur qui vous arrête, ceux qui vous arrêtent à l'extérieur et qui vous mettent la main sur le bras sont sans aucune importance, vous savez.
Ah, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais je veux dire par là que ça pourrait expliquer vos désillusions.
Oh, je ne suis pas désillusionné. Je suis au contraire le plus illusionné des hommes. Je suis au contraire rempli d'illusions. J'en fabrique tous les jours.
Mais enfin, c'est assez vexant, Jean Giono, d'avoir été pris pour un poète un peu anarchisant, par exemple, dans ses premiers livres, et puis ensuite de se retrouver comme une sorte de théoricien du retour à la Terre sous un certain gouvernement.
Mais ils étaient libres de prendre le retour à la Terre comme ils voulaient. Quant à moi, alors ça, c'est beaucoup plus curieux, parce que moi, si vous trouvez dans toute mon œuvre les mots « retour à la Terre », je me fais couper les oreilles.
Les mots, non, mais l'esprit.
Mais pas du tout. Jamais. J'ai dit simplement ceci. Et c'est quand je parlais le plus clair. Alors pour le reste, encore moins. Quand je parlais le plus clair, je disais ceci. Je disais, à la recherche de mon bonheur, je l'ai trouvé plus facilement en dehors des villes que à la ville. Voilà tout. Mais j'ai écrit aussi, j'écris non pas pour que vous me suiviez, mais pour que vous fassiez votre propre compte en vous-même. Ça, c'est dans les vraies richesses. Par conséquent, jamais il n'a été question de donner un message qu'on doive suivre.
Mais alors, ce
j'ai
qui
dit
curieux,
simplement mon expérience.
Ce qui est très curieux, alors, c'est que votre œuvre a débouché dans la politique. Et à un moment donné... Eh bien, mais vous le savez très bien.
Non, dites-le.
Ben, d'abord, vous avez participé à toutes les manifestations de gauche et d'extrême gauche pendant la période d'avant.
Jamais. Aucune participation, jamais. Je ne suis pas allé à la politique, c'est la politique qui est venue à moi. Et ça s'est passé de la façon suivante, j'avais une position dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était la position de pacifiste. Cette position de pacifiste servait la politique à ce moment-là du Parti communiste, qui était très pacifiste. Il y avait certaines campagnes politiques dans les journaux communistes de l'époque qui étaient des campagnes pacifistes et on se servait par conséquent de mon pacifisme. Ce pacifisme qui a été immédiatement rejeté et rejeté au moment où le Parti communiste est passé du côté de la guerre.
C'était en 1941.
Oui.
Alors, à un moment donné, vous avez passé pour un homme de gauche.
Oui.
Et quelques années plus tard, pour
un homme
de droite.
Et oui. Et puis après, pour un homme du milieu, probablement. Mais tout simplement parce que moi, je ne change pas et que le reste change autour.
Ce qui est curieux, c'est que votre nouvelle manière a commencé au moment où à peu près où vous sortiez de prison.
Ah non.
Un an après.
Ah non. Attention. Il y a un livre qui fait la liaison, justement, et qui vous explique tout le bonheur que j'ai pu éprouver en prison. Parce qu'il est tout exprimé dans ce livre qui est un livre de bonheur pur. C'est pour saluer Melville. Et pour saluer Melville a été écrit en prison.
Oui, mais ça, c'était une façon de vous distraire.
Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. C'était une façon d'exprimer mon bonheur. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas ni illusion, ni amertume, ni quoi que ce soit contre les temps ou contre la prison, puisque au contraire, c'est ce qui fait la liaison entre comme un joie de mœurs et le hussard sans temps.
En tout cas, on n'imaginait pas, à vos débuts, que vous seriez un jour académicien.
Je ne le suis pas, je suis académicien Goncourt. C'est tout à fait différent.
Quelle différence ?
Et d'abord, cette académie n'a pas besoin de l'agrément du gouvernement pour se remplir ou pour se vider. Ensuite, il n'y a que 10 membres dans cette académie et ils sont tous écrivains. Il n'y a pas de ducs, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a pas de grands industriels, il n'y a que 10 écrivains.
Vous n'y avez pas été au dernier Goncourt ?
Non, j'étais malade, hélas, je suis resté ici.
Alors la maladie n'a pas non plus atténué votre bonheur ?
Non, je dois vous dire que vous m'avez cité l'autre jour une phrase de Camus qui disait que la mort était un
scandale. Non, pour Camus, en effet, la mort était un scandale.
Voilà, alors moi, immédiatement, je vous ai dit...
Mais je croyais que vous auriez dû approuver
non,
parce
non, moi
que
j'aime la mort.
Vous aimiez mais tellement la vie après
non,
tout.
Non, moi j'aime la mort, mais si on aime la vie, on aime la mort. Il ne peut pas y avoir de vie sans mort et de mort sans vie. Ça, c'est fatal. Non, il y a une chose qui, pour moi, est un scandale. Et je m'étonne que Camus n'y ait pas pensé. C'est la douleur, et la douleur physique, pas la douleur morale. Ça, c'est un scandale.
Alors vous voyez qu'un jour ou l'autre, grâce à la douleur, on fait connaissance avec un nouveau sentiment.
Ah, je ne sais pas.
Avec peut-être une certaine dimension métaphysique de la vie.
Vous savez, ça c'est de la littérature. Quand on souffre, on ne pense qu'à une chose, à un monsieur qui arrivera avec une seringue qui vous fera une piqûre pour que vous ne souffriez plus.
Tout de même, vous avez cherché une explication à votre souffrance.
Oh non, je ne cherche pas d'explication. Vous avez beaucoup souffert physiquement quelquefois. Non, je le souhaite et je ne souhaite pas que vous souffriez. Moi, malheureusement, j'ai souffert une fois ou deux comme ça. Je ne dis pas que pendant ces moments-là, qui n'ont jamais dépassé 2 heures ou 3 heures ou 4 heures, je ne peux pas vous dire que j'ai été, parce que ce moment-là, très heureux. Mais j'ai été heureux après, puis j'étais heureux avant. Parce que la vie, parce que je vous vois venir avec votre truc sur le bonheur, vous comprenez ? Alors, j'essaye de vous contrer avant. Alors, j'ai été quand même heureux, seulement pendant, je reconnais, pendant la période où je souffrais atrocement d'une façon physique, je n'ai pas été heureux, je vous le garantis. Eh bien, à ce moment-là, on ne pense strictement à rien. On n'est pas un animal métaphysique, on est un animal pur et simple, de chair et d'os. On souffre, on n'a plus qu'un désir, c'est que cette souffrance s'arrête. J'ai vu souffrir Gide. Gide, pour la souffrance physique, était très faible, alors que c'était un homme très courageux. J'étais beaucoup plus jeune au moment où il faisait ses expériences, et je ne croyais pas très exactement ce qu'il me disait. Il me disait, lui aussi, il me disait, il n'existe pas de souffrance morale. Et croyez-moi, la douleur physique, c'est la chose la plus abominable du monde. Et je n'y croyais pas parce que j'étais jeune et que je ne souffrais pas. Et puis, il est mort, et moi, je suis venu à l'âge qu'il avait au moment où il me faisait ses réflexions. Et j'ai éprouvé la douleur physique. Alors, je vous garantis que ça, c'est pas métaphysique, et c'est pas littéraire du tout. À ce moment-là, on ne pense plus ni à écrire, ni à raconter des histoires, ni à prier, ni à quoi que ce soit.
Ça rejoint un peu le point de vue de Camus. Au fond, lui, il disait « la mort est un scandale ». Vous dites « la douleur est un scandale ».
Ah, mais c'est pas du
tout
pareil.
Au fond, vous mettez le doigt sur le bien et le mal, et sur l'éternel problème.
Ça n'est pas du tout pareil. J'ai vu mourir ma mère, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu mourir ma belle-mère, j'ai vu mourir la grand-mère de ma femme, j'ai vu mourir des quantités de gens qui sont morts de mort naturelle. C'est-à-dire qui sont morts à un moment où la vie s'est arrêtée chez eux. Ils ne sont pas morts de maladie, ils sont morts de vieillesse. Eh bien, toutes ces morts-là étaient des morts admirables. C'était des morts logiques, c'était des morts normales. Et j'aimais beaucoup cette façon de mourir. À ce moment-là, je l'aime, cette mort. Quant à être un scandale, la mort, s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de vie. Et pouvez-vous imaginer que ce que nous faisons maintenant, ou ce que vous faites dans votre vie normalement, et ce que je fais moi dans la mienne normalement, pouvez-vous imaginer que ceci puisse se continuer éternellement ? Pouvez-vous imaginer ça ? Vous ne vieillirez pas, vous resterez tel que vous êtes, et vous continuerez à faire ce que vous faites, ou vous essaierez de faire autre chose de nouveau pendant l'éternité.
Alors, avoir 70 ans ne marque pas un tournant dans votre vie.
Ah non, non, non. Je suis très content de toutes les manifestations d'amitié qui me sont prodiguées à propos de ces 70 ans. Je remercie tous ces amis qui donnent des manifestations de leur amitié. Mais pourquoi pas à 69 et pourquoi pas à 71, vous comprenez, c'est pareil. Moi, je suis probablement le seul à ne pas savoir que j'ai 70 ans. À ne pas savoir. Je les ai, mais je ne sais pas. Je continue encore à raisonner comme un jeune homme de 20 ans ou comme un jeune homme de 40 ans.
Thank you.
C'était la minute de vérité de Gilbert Gann. Aujourd'hui, entretien avec Jean Giono.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 avril 1965.